Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Bonjour Pierre Poli.
Bonjour.
Comment ça va par ce temps très ensoleillé?
Super, super.
Très chaud
un peu mieux. Bah ouais.
Ouais. Donc on rappelle que vous êtes le directeur artistique des Francofolies.
Mais...
Et on vous reçoit aujourd'hui au domaine de Chamarandes, pas départemental de Chamarandes, pour le festival RTL2 et son enseigne. Et comment vous allez, vous, aujourd'hui?
Super, c'est un festival qui sonne à la fois la fin des vacances et la fin de l'été et en même temps le début de la rentrée. Donc on revient remonter... comment dire, bien remis d'un été déjà chargé, et on rattaque par ce beau festival dans cet endroit qui est quand même magnifique. Et voilà, étant donné que les soirées sont complètes, on est forcément plus serein et que la météo est presque avec nous, à part quelques gouttières, mais non, tout va
très
bien.
C'était vraiment léger, ça va.
Oui, très léger, ouais. Il faut toujours un peu de ça pour rafraîchir un peu.
Ça
que le public est trop chaud.
Alors vous êtes assez associé au département et au département de l'Essonne, donc sur le festival, on l'a dit, RTL2 Essonne en scène depuis sa création.
Oui.
D'ailleurs le festival a changé un tout petit peu de nom cette année puisque maintenant c'est RTL2 Essonne en scène. D'ailleurs pourquoi? Pourquoi ce changement? Pourquoi RTL2?
En fait ça a été une opportunité d'avoir un partenaire très motivé à l'idée de nous accompagner, de s'investir sur un festival comme celui-ci. C'est un festival qu'on a appelé au départ Essonne en scène par les Francofolies, mais c'était plus dans l'idée de faire un clin d'œil un petit peu à la ligne éditoriale et artistique des Franco. Et puis, il faut toujours un peu de temps pour qu'un festival s'installe dans un paysage et trouve sa place. Et on s'est posé la question à un moment donné de se renforcer encore et trouver aussi une particularité à ce festival pour se démarquer un petit peu de l'existant sur le territoire. Et cette opportunité avec RTL2 s'est présentée un peu naturellement et on y a vu beaucoup d'avantages en termes de renommée, en termes évidemment de liens en communication et en promotion du festival, et puis de partage aussi de valeurs et de lignes artistiques. Et en fait ça s'est fait assez naturellement et on trouve que ce triptyque fonctionne bien. Il y a une collectivité qui a l'initiative de ce festival, il y a une structure comme les Francofolies, comme Morgane Productions qui est l'organe opérationnel, et puis on a RTL2 qui est aussi le relais média, en tout cas le relais promo, qui est un bel allié pour le relais promo. On l'a vraiment senti quand on a annoncé la programmation, que la radio a fait une émission spéciale et tout ça, les ventes tout d'un coup ont explosé. Enfin, donc on sent bien qu'il y avait aussi besoin de ça pour se faire entendre dans la grande région, ici sur Paris, sur l'Île-de-France. Ouais.
Sur le sud de l'Île-de-France. Alors la première édition en 2019,
oui.
Il y avait 10 000 spectateurs, c'était 2 jours.
Oui.
Donc c'était en juin, vous alternez d'ailleurs, à 16 000 en 2021 et c'était 3 jours, et c'était en septembre.
Oui.
16 000 en 2022 et c'était redevenu en juin, et sur 2 jours aussi. Là cette année c'est 20 000 sur 2 jours. Donc est-ce que la jauge de 10 000 par jour, est-ce que c'est le maximum au niveau peut-être sécurité ou pour vraiment accueillir pleinement les festivaliers, ou est-ce que ça pourra encore évoluer?
À ce stade, je pense qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux consolider le festival tant dans son infrastructure que dans sa viabilité, alors et à la fois économique et à la fois en termes de circulation du public, de gestion des bars, etc. On évite de trop se précipiter et puis après aller à la course aux chiffres et aux spectateurs et aux capacités de site, c'est pas dans les objectifs premiers. Après, bien sûr, on peut être tenté de se dire avec une année comme celle-ci que on est un peu frustré de savoir que c'était complet depuis des mois.
C'est ça.
Et que en effet on aurait du public qui aurait souhaité aussi venir participer à cette aventure. Donc on peut être tenté à se dire qu'on peut effectivement grandir un peu le site. Peut-être qu'on arrivera à peut-être grandir un peu plus l'année prochaine, mais c'est des questions sur lesquelles on est en train de réfléchir. Après, qui dit plus grand jauge dit plus grand problème ou plus grande prise de risque.
Bien sûr.
Et on constate aussi que le public n'est pas forcément toujours attiré par des très grands événements, aime aussi avoir des événements à taille humaine. Donc on se l'interdit pas, mais c'est pas dans les priorités des réflexions aujourd'hui.
ou revenir sur une version plutôt 3 jours. Non, avec mais peut-être. Ça demande effectivement un budget supplémentaire plus que plus d'artistes.
Là, alors il y a aussi ça, et puis il y a le fait que on a pris cette décision. Alors comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, on était d'abord au mois de juin. On s'est rendu compte en fait qu'il y a une concurrence vraiment très très forte au mois de juin. Et ce qui nous a poussé à aller sur septembre, c'était uniquement le Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le Covid, on savait qu'on avait interdiction de le faire en juin. On avait envisagé de le faire, de le décaler sur septembre. Et finalement, bon, ça n'a finalement pas pu se faire, mais on avait annoncé le report et on avait trouvé beaucoup plus d'avantages à faire sur septembre. Et après, il se trouve qu'il y a la rentrée scolaire en septembre. Et donc, 3 jours, sachant que c'est le week-end qui nous correspondait le mieux, le premier week-end de septembre, en fait, ou le dernier week-end d'août, d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas encore... la rentrée scolaire n'est pas encore arrivée. On a préféré plutôt stabiliser ce projet sur 2 jours pour l'instant, ce festival, que 3 jours, sachant qu'on a la rentrée scolaire derrière. On peut pas du coup le faire le dimanche, ça veut dire qu'on attaque dès le jeudi. Et comme on veut une ligne éditoriale, on a cherché aussi un peu notre ligne éditoriale au fil des années. On s'est dit que ça serait plus prudent pour l'instant de rester sur 2 jours. Moi je milite à titre personnel pour une deuxième scène, mais voilà, chacun potentiellement, voilà, mais après chacun a des envies et des idées, on se nourrit de tout ça et on, voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer prudemment et d'avoir les réflexes, de se remettre en question chaque année. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important dans les festivals, pour être plus créatif, pour coller plus aux attentes du public aussi. Donc non, pour l'instant on va rester sur cette période de fin de l'été,
ouais.
2 jours, peut-être qu'on va arriver à accueillir un peu plus de monde l'année prochaine, mais bon, il n'y a pas encore aujourd'hui de vrais projets d'agrandissement.
Ouais. Ouais. Bon, j'imagine que vous en parlez quand
tenté,
même.
On peut être tenté, parce qu'à la vraiment toute base de ce projet, il y avait l'idée de faire un grand concert de l'autre côté du château, sur ce grand terrain.
D'accord.
C'est ça qui a amené un peu au départ à réfléchir à l'éventualité d'un festival ici, mais c'est beaucoup de contraintes, l'autre terrain, et il est tout de suite beaucoup plus grand, donc ouais, ça pose beaucoup de questions, mais on n'y est pas encore.
Ok. Il y a quand même la contrainte l'année prochaine. Alors si c'est en septembre, ça passe à peu près, parce qu'il y a quand même les JO. Ce sera fini en septembre, par contre il y aura les Jeux paralympiques.
Absolument.
En septembre.
Oui.
Et donc vous en parlez déjà?
Oui, bon, ça fait depuis quand même pas mal de temps qu'on en parle pour tous les festivals d'été, forcément, puisque les forces de police et les préfectures vont être très mobilisées là-dessus.
C'est ça.
Donc c'est aussi ce qui fait qu'on on se met pas de pression par rapport au fait de faire grandir le festival. Pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas bloquant pour la tenue du festival. Enfin, c'est même sûr que ça ne devrait pas être bloquant pour la tenue du festival.
En tout cas, tes crins de verdure, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de grand stade, il n'y a pas de grande structure.
Non, a priori, ça ne pose pas de problème. On serait potentiellement sur le 30-31 août et ça a l'air de coïncider.
Ok, on va parler des talents essoniens. Comment cette année ils ont été sélectionnés? Parce que c'est vrai que d'habitude on voit des appels à candidature et donc cette année ça a été visiblement différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors en fait c'est une évolution assez naturelle, c'est-à-dire qu'en effet les premières années on a aussi besoin de bien connaître le territoire, donc on a deux façons de travailler, c'est-à-dire qu'on fait à la fois un appel à candidature et à la fois on s'appuie sur les acteurs locaux, les salles, les associations, les collectifs qui accompagnent des artistes à l'année, qui nous font aussi remonter des idées, et on croise un peu les deux. Mais l'appel à candidature permet à tout un chacun de postuler, mais après on a des niveaux, comment dire, de projets de développement, enfin de professionnalisation qui sont vraiment extrêmes, il y a des grands écarts vraiment en termes de propositions, et là cette année et même l'année dernière on a pris le parti plutôt de s'appuyer sur des gens qui ont déjà dans leur radar des artistes et qui les accompagnent à l'année, qui sont en capacité de pouvoir nous dire je pense que c'est le bon moment, parce que le risque de ce type de festival c'est d'amener un artiste trop tôt sur cette scène, ça sera compliqué. Enfin, ça sera surtout compliqué pour lui, parce qu'il
aussi,
ça peut vivre un truc. Moi, j'ai déjà vu des artistes qui sont. C'était trop tôt, ils n'étaient pas prêts. On essaie de faire en sorte que ce soit des artistes.
Ça peut les traumatiser aussi.
Complètement, ça peut être un vrai traumatisme. Le public, il ne va pas comprendre. Et ce qu'on souhaite, dans la mesure du possible, c'est que la venue d'un jeune artiste estonien sur le festival coïncide avec un projet de développement professionnel. C'est pas. On n'est bien évidemment pas fermé à la pratique amateur, mais étant donné les enjeux, on préférera privilégier des artistes qui souhaitent se professionnaliser et qui vont du coup se servir de ça comme
tremplin.
Un des tremplins, voilà, pour pour avancer dans leur carrière. Et ces artistes-là, de toute façon, sont repérés par les acteurs locaux. On n'a pas, on s'est jamais arrivé qu'on découvre tout d'un coup quelqu'un qui a déjà fait des résidences, qui sait, qui saura tenir une grande scène comme ça du chapeau. C'est la plupart du temps, ils sont déjà repérés par ces lieux. Donc on a préféré s'appuyer sur leurs compétences, sur leur savoir-faire, sur leur repérage, sur et voilà de discuter. Et on a une shortlist et je me suis attelé ensuite à me laisser simplement porter par de l'artistique et ne pas avoir de considération sur le niveau de développement, la structuration, est-ce qu'en live ça va tenir la route, puisque ce filtre là en gros avait déjà
été fait.
Fait
par les partenaires,
donc c'est des choix vraiment purement guidés par l'artistique, et ça pour moi c'est hyper agréable parce que à ce moment là on laisse vraiment parler l'instinct du cœur et de la musique sans se dire est-ce qu'il est prêt, pas prêt, parce que je sais que s'il est sur la liste il y a déjà des gens qui ont fait ce travail et qui ont cette expertise pour nous dire ils seront prêts, c'est bon, vous pouvez y aller les yeux fermés quoi.
Et vous avez en fait il y a tout style de musique, c'est vrai que il y en a pour tout le monde. On voit avec un parfait qui fait du métal alternatif, on a de la pop, on a. Est-ce que c'est justement c'est un choix de proposer différents styles ou c'est vraiment le hasard qui a fait que tout public en fait peut venir et peut trouver ce qui l'intéresse.
En fait, il y a deux entrées, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une cohérence par rapport au reste de la programmation, c'est-à-dire ne pas avoir non plus trop de décalage artistiquement entre ce qui est présenté en début de journée avec les artistes estoniens et le soir, parce que là aussi il peut y avoir une incompréhension du public. Voilà, donc là il y a une cohérence effectivement entre Imparfait et Chaka Ponk par exemple. Et à la fois, on veut aussi présenter ce qu'est la diversité artistique du territoire. C'est pour ça qu'on avait l'année dernière ou les années précédentes, on a eu de la musique urbaine, on a eu d'autres artistes, même si c'est pas moins cohérent. Et ce qu'il y a le soir même, c'est pas grave, on veut montrer aussi quelle est la dynamique et la diversité du territoire estonien, et je suis particulièrement chaque année un peu assez agréablement surpris sur la qualité de certains projets. Ouais. On a Laven par exemple ce soir aussi, qui était un artiste qui avait postulé déjà depuis plusieurs années, sur qui on hésitait beaucoup, et quand on n'y va pas une année, on ne ferme jamais vraiment la porte, et là c'était la preuve, puisque finalement ils ont insisté, ils se sont représentés, et moi ça faisait partie des artistes que je suivais déjà depuis quelques temps, et du coup là cette année ils ont pu le faire, ils étaient prêts, on était prêts aussi à les écouter, à les recevoir, donc voilà, les choses se font un peu naturellement comme ça, et heureusement c'est l'artistique vraiment qui reste en fait l'élément déclencheur d'une volonté d'avoir un artiste sur un festival.
Au niveau du festival, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous proposez aux festivaliers ? Peut-être en termes d'infrastructure, il y a plus de food trucks, ça on a tous vu. En plus, c'est réparti sur les deux côtés de la scène, donc ça va être beaucoup plus fluide. Enfin, c'est beaucoup plus fluide d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on peut trouver ?
Alors, on a préféré pour l'instant, comme on est encore dans une phase de consolidation, on a préféré pour l'instant plutôt confirmer, affiner le confort, les attentes au bar, les attentes dans les food trucks, et effectivement rendre le festival, en tout cas l'expérience du festival, plus agréable. Déjà le site il le permet vraiment, quand on est là on est dans cet espace boisé, dans cette cuvette de bois entre la scène et le château dans le dos. On a revu l'emplacement de certaines infrastructures. Après en termes de contenu, on est resté pour l'instant sur ce schéma de présentation d'artistes émergents et ensuite de tête d'affiche. On a bien évidemment les expositions qui sont à disposition, dans le château. Après moi j'ai énormément d'envie de faire des happenings, des concerts au bord de l'eau secret, des trucs, voilà. On en parle. Ça fait partie des. Mais on pense qu'il faut d'abord qu'on arrive à consolider le socle de ce qui constitue le festival et le rendre économiquement stable pour ensuite pouvoir se dire on va aller maintenant développer encore plus d'expérience spectateur. Pour l'instant, on est vraiment dans un principe, on rend agréable l'instant. On fait en sorte que le public se sente bien et fasse pas trop la queue et voit des concerts qu'il aime. Et puis, je l'espère, dans les années à venir, on essaiera d'aller les titiller un peu plus, d'aller les surprendre aussi. Voilà, en tout cas, c'est fait partie des trucs sur lesquels on réfléchit quand même depuis la première édition. Hein. Je suis arrivé, je me suis baladé dans le parc, je me suis dit, il y avait moyen de faire des trucs là. Il y a des petits ponts là au bord de l'eau, on fait des artistes sur des barques, on les fait aller sur l'eau, on fait. Voilà, mais je suis pas seul décideur et j'ai pas le portefeuille du festival, j'ai des contraintes, mais j'espère que probablement on ira vers ces choses-là, puis peut-être des choses plus en après-midi encore, des choses pour le jeune public, moi j'ai envie de faire des booms pour les enfants, des choses comme ça.
Ah oui.
Mais voilà, là je parle pour moi, c'est des choses qu'on expérimente au Francofolie ou ailleurs, donc pourquoi pas.
Et par exemple, comme le festival est sur deux jours, Est-ce que vous pensez peut-être à mettre un espace camping justement pour les gens qui prennent le pass de jour pour voilà, éviter, même si c'est beaucoup des franciliens pour l'instant qui viennent, mais on vous attendait beaucoup plus effectivement des personnes de Paris, mais voire même des départements limitrophes. Et pourquoi pas mettre un petit espace camping pour les gens qui font les deux jours en fait.
Ça fait partie des réflexions. Pour l'instant, notre public est aussi quand même un public
familial.
Ouais, familial. Finalement, pas si jeune que ça. Et donc la notion de camping, c'est peut-être pas une évidence comme ça pour ce public. Je pense que ça va être un peu à la marge quand même. Mais ça peut dépendre de l'évolution aussi du festival. En effet, je pense que le public, par expérience sur d'autres festivals, on sait que ça touche des tranches d'âge plus jeunes, plus étudiants plus, enfin, jusqu'à 25, 30 ans maximum. On l'étudie, mais pour l'instant, c'est pas, on ne le prévoit pas. Et finalement, on n'a pas tant de demandes que ça, à vrai dire. On a vraiment à assez peu de demandes. Ce qui est important pour nous, c'est notre capacité à pouvoir gérer les flux sur les arrivées et le départ des publics avec les voitures, et puis le RER bien entendu qui arrive juste ici. J'ai appris hier qu'on pouvait mettre 2000 personnes dans un RER, donc peut-être l'idée c'est aussi de se dire qu'on le rend plus régulier et de faire en sorte que, ouais, que les gens puissent venir et repartir assez facilement et trouver des possibilités de rentrer chez soi, parce qu'en effet le public est très très local. Camping peut-être un jour sur des esthétiques un peu différentes, sur des publics plus jeunes, sur une dimension plus grosse, ça pourra se justifier un endroit.
Bah écoutez, vous avez répondu à toutes mes questions, c'était parfait. Merci Pierre Poli.
Mais
très très bon festival.
Merci, à bientôt.